Radio Campus Lille, 14h.
Il est 14h sur les bonnes ondes de Radio Campus 106,6 et c'est l'heure d'un magazine émission spéciale consacrée à Deux fois né, un livre qui a été publié en septembre 2017 par Constantin Alexandrakis qui est avec moi dans les studios.
Bonjour.
Salut Constantin. Et donc un bouquin édité aux éditions Vertical. Et dont ben, il va être question aujourd'hui, question donc de Deux fois né, question de Grèce, question d'Icaria, dont vous venez entendre une musique folklorique qui donc retentit pendant toutes les, c'est les panégéries, c'est ça, Icariote?
Panégyria.
Ah, excuse-moi, le micro était pas bien branché. Ah. Je suis désolé, c'est de ma faute.
Alors, ça y est, allô, allô, c'est bon.
C'est tout bon.
Et donc, oui, les fêtes à Icaria, on appelle ça Enfin, c'est un mot grec pour dire la fête, en fait, panégyri. Et puis, il se trouve qu'il y a un mot français qui dit panégyri, qui veut dire la même chose, qui est un mot qui est très peu employé en France. Alors qu'en Grèce, c'est un mot très commun, ça veut dire les fêtes traditionnelles, disons. Hein,
oui. Ouais, qui dure notamment sur l'île d'Icaria de juin, mai-juin, jusque septembre-octobre, c'est ça?
Voilà, ouais, à peu près, oui, c'est ça. Ouais. Je crois que c'est pan et gyros, c'est-à-dire tout tournant, quoi.
Mm-hmm. Ouais. Donc, bah, on y reviendra d'ailleurs un petit peu sur cette île d'Icaria où tu as passé pas mal de temps et qui prend une certaine place dans le livre.
Ouais.
Mais on y reviendra après parce qu'on va commencer d'abord par un petit discours.
Ah oui, mon grand discours.
Ton grand discours plutôt. Ouais, exactement.
C'est donc un discours que j'ai écrit notamment pour répondre à une question qui est une vraie question de mortel. Une question qui a un rapport avec mon livre, bien sûr, et qui est une question relativement simple. C'est: comment faire diable pour être heureux? Donc, ce livre pour lequel j'ai été invité ici, c'est beaucoup de choses, mais certainement pas un manuel de félicité. C'est un livre qui a pris 5 ans, 5 années où je suis régulièrement parti en Grèce pour chercher un père qu'on m'avait dit mort. un géniteur qui ne connaissait pas mon existence, un type d'une soixantaine d'années, très malade, que j'ai failli tuer en lui annonçant la nouvelle. Donc ces 5 années de confrontation directe, parfois pénible et fastidieuse, avec un passé pourrave qui refuse absolument de passer, un passé qui arrive en permanence. D'ailleurs, si on y prête un peu attention, c'est une des caractéristiques du passé. Ces 5 années, donc, que j'aimerais dire de combat, même si de galère semble aussi juste, m'ont, quelque part, ôté l'espoir d'atteindre le bonheur. C'est-à-dire ce qu'on appelle communément le bonheur. Une sorte d'état avachi et éthéré où on flotte sur un canapé de nuages en short hawaïen, la télécommande à la main, dans un loft immensément blanc et baigné de lumière, une panthère parfumée traînant au fond du jardin. Voilà plutôt ce que j'ai appris sur le bonheur. Alors, tout commence dans la forêt, en hiver, lors d'une après-midi de biture qui fait suite à une soirée, le lendemain d'une matinée d'une fête d'au moins 3 jours. On est quelque part sur la côte anatolienne. Crésus, le type le plus riche de Lydie, court après un satyre, avec l'obstination un peu abrutie d'un lendemain de cuite qui serait une nouvelle cuite. Et il veut savoir si lui, Crésus, le roi plein aux as, il est bien l'homme le plus heureux parmi les hommes. Le satyre jaillit, bondit, apparaît dans la vigne et disparaît dans un bougainvillier, danse au milieu des lauriers roses. C'est une course-poursuite jaculatoire qui fait un peu penser au générique de Benny Hill, jusqu'à ce que finalement, le satyre, qui ressemble à Prince, se laisse attraper. Et, avec un sourire ironique à ses lèvres palpitantes, il répond enfin à la question du roi. Enfant du hasard et des peines, misérable esclave de ton ventre, pourquoi me contrains-tu à te dire ce que tu as tout intérêt à ne pas entendre? La meilleure de toutes les choses t'est totalement inaccessible. N'être pas né, n'être pas, n'être rien. Et la seconde parmi les meilleures, mourir bientôt. Avant de disparaître, il ponctue d'un éclat de rire la définition bien particulière qu'il vient de donner du bonheur. Donc, la meilleure des vies pour un mortel est celle qui n'existe pas. La moins mauvaise ensuite, c'est la vie brève. La vie d'Achille, par exemple, mort au combat, en pleine jeunesse, en pleine force, mort extrêmement vivant pour défendre l'honneur de sa cité. Alors, mon discours pourrait s'arrêter là, mais il se trouve que le débat se poursuit quand Ulysse rencontre Achille en enfer et que c'est Achille lui-même qui vient contredire l'exemplaire vie d'Achille. Ulysse vient de le féliciter. « Achille, jamais mortel ne sera plus heureux que toi », lui a-t-il dit. Et Achille de lui répondre « N'essaye pas de me consoler de la mort, Ulysse, car je préférais encore revenir vivre en esclave sur la terre plutôt que de vivre cette vie vague et presque éteinte de mort immobile. » Ainsi donc, dans l'Odyssée, la seule évocation de la mort, c'est qu'elle sera encore pire que la vie. Dans le royaume des morts décrit par Homère, il n'y a pas de seconde vie, pas de nouveau commencement, pas d'espérance. Il n'y a aucune lumière, aucun souvenir, que moisissure et ténèbres. Et le peu d'espoir d'éternité que la gloire pouvait apporter est balayé d'un revers de main. Alors dans ce monde archaïque, on ne se pose pas de questions sur la mort. Il n'y a pas de métaphysique. Aux grandes interrogations d'où venons-nous, où allons-nous, les 3 grands livres religieux de l'Antiquité, l'Iliade, l'Odyssée et la Théogonie d'Hésiode, répondent que nous venons du chaos et que nous finirons tous en enfer. Alors, on peut trouver que c'est affreusement sombre, mais aussi bizarre que ça puisse paraître, cette façon affreusement sombre de voir la vie, très loin du nihilisme, loin même de la tristesse, cette façon éminemment tragique de voir la vie me semble être la plus vive, la plus éclatante, la plus intense, la plus vivante des manières de vivre. Parce que ce refus de toute consolation implique et souligne, c'est évident, qu'entre 2 grands vides sans aucun espoir, le chaos et l'enfer, il y a justement la vie. Que c'est là que ça se passe, c'est « the place to be », ici et maintenant. Et là, on est libre. C'est banal, mais on est libre de donner un sens à notre vie. C'est même notre responsabilité. Les dieux ne sont pas responsables de nous, bien au contraire. Parce qu'entre deux trous noirs, aussi affreux l'un que l'autre, il y a notre temps, notre liberté, notre ardeur, notre vivacité, notre animation, notre santé, notre vigueur, notre bouillonnement, notre chaleur, notre mouvement, notre force, notre entrain, notre énergie, notre allant, notre fraîcheur, notre existence. Et il n'y a rien d'heureux là-dedans, rien d'heureux au sens de beau, au sens de bon, au sens de béat, au sens de tranquille, au sens de satisfait, au sens de serein, au sens de ravi, au sens de repu, au sens de paisible, au sens d'agréable, au sens de radieux, au sens de plaisant, au sens de doux, au sens d'harmonieux, au sens d'optimiste, au sens d'équilibré. Bon, alors, comme on est la radio, vous ne pouvez pas vraiment en voir, mais en tout cas, je ne suis pas venu avec mon égide au regard pétrifiant ou mon glaive, et là, je ne porte pas de casque à toupet Rubicon. Toute cette mentalité, cet état d'esprit, pour moi, c'est comme une vague religion à moitié morte dont j'essaye de gratter les miettes. C'est ce que je trouve vrai, en majuscule, ce qui peut parfois m'aider à tenir. Et en même temps, c'est très loin de moi, c'est très loin de nous, les Grecs, les anciens, mais passons. En partant sur les traces de mon géniteur, je savais bien que je ne trouverais pas de père. À 35 ans, évidemment, c'était un peu tard. Je savais bien qu'il n'y aurait pas de victoire sur les Moires. Mais en même temps, il fallait bien que je fasse quelque chose. J'allais pas rester là avec ce monstre au fond du placard à attendre qu'il me bouffe. Bon, alors cette histoire merdique et misérable, disons que j'ai tout fait pour la transformer en richesse inestimable, ou pour le dire autrement, j'ai tout fait pour essayer de retourner la situation à mon avantage. Mais j'ai déjà passé 300 pages à raconter ça, et là je risque de répéter en moins bien ce que je dis déjà dans le bouquin. Alors même si c'est moche de se servir de l'histoire d'un autre pour parler de soi, maintenant, j'aimerais prendre un exemple, vous raconter une histoire qui n'est pas la mienne, même si moi aussi je suis passé à la casserole et que cette histoire, qui n'est pas mon histoire, est assez proche de mon histoire pour que j'ai envie de m'en servir comme d'une analogie, d'un fil parallèle. Disons que je la vois comme une version plus glorieuse et plus héroïque de la mienne. Je la comprends comme une histoire de bonheur telle que je le conçois. Ou disons plutôt comme une illustration du type de force que je cherche encore à atteindre et qui parfois me manque. Bref, une histoire qui me semble instructive. Donc, Mickey Ward est un boxeur surtout célèbre pour son crochet gauche et une trilogie de combats magnifiques, atrocement cruels et violents contre celui qui est devenu plus tard son ami, Arturo Gatti. Mickey Ward est né le 4 octobre 1965 à Lowell, un trou post-industriel du Massachusetts, dans une famille de 9 enfants. Alors son frère Dickie est aussi boxeur, très vaguement célèbre pour un combat contre Sugar Ray Leonard. Et toute la famille, plutôt déglinguée, vit pour la boxe. La mère manager, le père entraîneur, l'oncle soigneur. Avant d'être boxeur, Mickey est un enfant plutôt chétif et plutôt timide. Et il doit avoir 9 ans quand il rencontre celui qu'on surnomme Hammer. C'est un ami de son frère Dickie, un compagnon de biture qui est devenu un ami de la famille, à qui on fait assez confiance pour lui demander de garder le petit Mickey. C'est un petit Italien avec la musculature crispée d'un jockey, une cicatrice dentelée qui va de son oreille gauche à sa clavicule, un assortiment de tatouages comme projetés autour de son cou et de ses épaules. Tout ça lui donne l'air d'un dur qu'il n'est pas en vrai. Et pendant des années, Hammer va profiter qu'il est seul avec Mickey pour abuser de lui. Et pendant près de 40 ans, Mickey ne dira rien à personne. Alors il n'y aura pas de violence proprement dite, pas comme on se les imagine. À aucun moment Hammer ne forcera Mickey à faire quoi que ce soit. Simplement il va le manipuler, profiter de son ascendant d'adulte pour inviter Mickey à lui montrer des parties de son corps. Et puis il va le laisser seul avec ça pour le restant de ses jours. Alors, que va donc bien pouvoir faire Mickey afin de sortir de ce piège ? Deux choses. La première, il va être d'une intelligence rare, fulgurante, qui lui évitera 15 ans de psychanalyse. Un jour, à l'école, il y a un genre de cours d'éducation sexuelle. Il doit avoir 11 ou 12 ans. Et l'intervenant évoque les violences sexuelles. Et il a cette phrase. « Si quelque chose comme ça vous est arrivé, je veux que vous sachiez que ce n'est pas de votre faute. » Il n'est pas rare qu'on reproche un certain manque d'éloquence aux boxeurs, même si on fait une exception pour Mohamed Ali, voire qu'on interprète ce manque d'éloquence comme le signe d'une intelligence limitée. Mais parfois, toute l'intelligence du monde peut tenir à quelques mots. Et donc, ces quelques mots, Mickey va s'y accrocher comme une teigne, ce n'est pas de ma faute. Même si, bien sûr, il en a été malade, il en a été furieux, eh bien, il l'assure aujourd'hui, il ne s'en est jamais voulu, pas une seule fois. À travers les insomnies, à travers les moments de doute, même quand tout tourne autour de lui et qu'il est extrêmement difficile de faire la part des choses, même quand son cadre et sa structure vacillent, cette minuscule phrase lui permettra de garder un cap, une direction. Ce n'est pas de sa faute. Alors bien sûr, c'est lui qui nous le dit, et quand on sait la complexité et les ramifications psychologiques terribles des violences sexuelles, on peut se demander si la résolution de Mickey Ward a vraiment pu être aussi entière. On peut se demander s'il a vraiment été capable de simplifier aussi radicalement une situation aussi complexe, ou s'il ne joue pas aussi le rôle d'un héros qui a triomphé du mal. Surtout quand on regarde les vidéos de combat qui ont lieu 15 ans après et qu'on le voit se prendre des centaines de coups de poing, revenir à la charge et foncer vers la souffrance d'une façon presque extra-lucide. Mais il se trouve que dans sa biographie, qu'il a appelée « Le cœur d'un guerrier », dans le récit qu'il fait de cet épisode, ce sont ces quelques mots, ce n'est pas de ma faute, qu'il choisit de transmettre. Ces quelques mots qu'il adresse à toute l'immense, immense, communauté des violés, des abusés, dites-le comme vous voulez, des victimes de violences, en espérant, j'imagine, leur être un peu utile. Qu'il en soit au moins remercié. Ensuite, la deuxième chose, franchement spectaculaire cette fois, au sens de lumineux, disons, de solaire. À 15 ans, Mickey est déjà boxeur, peut-être même plus boxeur qu'il ne le sera plus tard, quand il s'illustrera plutôt comme un cogneur capable d'encaisser les punitions. Il s'apprête à faire son entrée dans le monde adulte des combats amateurs, et son frère Dickie lui parle d'un tournoi qui doit avoir lieu à Portland, dans le Maine, et où son beau-frère, Beau James, doit aussi combattre. Alors Mickey est enthousiaste et il demande à son frère quel adversaire il va affronter. Et là, son frère lui répond « Hammer, qu'est-ce que t'en dis ?» Mickey en dit qu'il va lui défoncer le crâne, et Dickie rigole, ça c'est mon petit frère. 200 personnes vont assister à ce combat, et sur ces 200 personnes, bien sûr, aucune ne peut comprendre la teneur intime de ce qui s'y joue. Pour les spectateurs, c'est pas un drame terrible où un jeune adolescent s'apprête à rencontrer son violeur, c'est juste un petit combat de 3 rounds, où une crevette Rookmout fait ses débuts en compétition amateur contre un journeyman médiocre et vilainement tatoué. L'arbitre effectue les présentations. Mickey regarde Hammer dans les yeux et n'y trouve aucun regret, aucune honte. Sans dire un mot, ils se tapent les gants et partent chacun dans leur coin, attendent que la cloche marque le début du combat. Alors, ici, évidemment, on aurait aimé une histoire de vengeance, du sang, une bonne dose de violence légitime. On aurait aimé voir Mickey mettre Hammer KO dès les premières secondes en lui arrachant le crâne. On aurait aimé voir Hammer au tapis, le voir supplier Mickey Ward, d'un seul coup devenu surpuissant. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Parce que Mickey raconte qu'il s'est produit un phénomène très bizarre. Après les premiers coups échangés, il est entré dans le rythme du match. Et par ce rythme, Hammer est devenu un adversaire de plus. Un adversaire à manœuvrer, un ennemi à déjouer. En anglais, ils disent « outbox », littéralement, ça pourrait se traduire par « déboxer ». Un adversaire, donc, le désarmer, éteindre ses stratégies, épuiser ses tentatives, le tout en prenant le moins de coups possible. J'imagine que ça demande d'être extrêmement calme, posé, réfléchi, concentré et intelligent. Ils disent aussi « composed », les Anglais, pour parler d'un être qui se tient. Bref, ça n'a pas été du tout un combat formidable, rien qu'un combat un peu chiant, où le plus jeune, le plus en forme et le plus doué balade le plus peureux, le plus vieux et le moins motivé. Beaucoup de danse et très peu d'action, dira Mickey. Un travail de distance, cadré et encadré. Alors que le risque, bien sûr, pour Mickey, c'était de se mettre à pleurer en se jetant sur Hammer pour le mordre à la gorge et tenter de le finir à coups de pied. Le risque, c'était de céder à la folie meurtrière, à l'horreur, au crime, de se laisser déborder par la rage accumulée depuis des années et de se perdre dans cette rage, dans son histoire. Mais Mickey veut gagner ce combat et il fait ce qu'il faut pour. Il garde son calme et se sert de sa technique, de sa ruse, de toute la violence de son art, de ce qu'il a appris au South End Gym, au West End Gym, au Bull Eyes et dans d'autres clubs. Il boxe patiemment, méthodiquement, et détruit ce mauvais homme en prenant son temps, avec rigueur et austérité, avec force et prudence. Et à la fin, c'est la main de Mickey qu'on lève. Alors après ça, tout ce petit monde rentre à Lowell, et le soir, seul dans son lit, à quoi donc a-t-il pu penser, ce Mickey Ward de 15 ans, qui était le seul à comprendre son exploit ? Quel était donc ce rythme du combat, cette pulsation qui semble l'avoir écarté de ses émotions, tout en le rapprochant au plus près de ce que ses émotions lui commandaient de faire, à savoir battre son violeur ? Quel est donc ce rythme qui semble le sortir de lui-même pour le faire devenir un peu plus lui-même ? Alors moi, je ne suis pas boxeur et encore moins Mickey Ward, et je n'ai pas de réponse à ces questions. Dans son autobiographie, lui, il ne développe pas. Il souligne juste la chance qu'il a eue de pouvoir bénéficier d'une forme de closure, quelque chose qui permet de tourner la page, un cadeau du destin, si on veut, une incroyable opportunité de clore le dossier. Et je pense que toutes les victimes de violences sexuelles rêveraient d'un truc comme ça, ou en tout cas, d'une confrontation que beaucoup n'ont même pas la chance de pouvoir effleurer. Quoi qu'il en soit, voilà un moment que j'imagine devoir être un moment satisfaisant. Sans doute pas un grand moment de bonheur, mais disons un moment solide, constructif. Un moment, justement, c'est-à-dire pas une solution définitive, terminale, mais plutôt le genre d'éclat que l'on peut parfois atteindre. Ce à quoi il faudra ensuite s'accrocher et dont la fragilité même augmente la grandeur et la force. Le genre de moment qui donne son prix à la vie qui n'a pas de prix. La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie, c'est ce que nous disent Achille et Ulysse à peu près tous les trois vers. La vie ne tient qu'à un fil, alors profitons-en pour lui donner un sens et faire face aux saloperies, pour faire ce qu'on a à faire. Mickey Ward va finir sa carrière presque 20 ans plus tard, en allant jusqu'à l'extrême limite de ce qu'un homme puisse supporter. Son dernier combat contre Arturo Gatti lui rapportera $1 million, dont il n'aura que très peu de temps pour profiter, car déjà, la démence pugilistique frappe au carreau. Il sera rentré dans l'histoire de la boxe par la petite porte. On retiendra son crochet gauche, son menton en fer forgé. Il y aura même un film sur sa vie, ce fighter, avec Mark Wahlberg. Mais ce que je retiens, moi, ce qui compte pour moi, ce que Mickey Ward m'apporte, c'est qu'en allant se chercher, il aura su ne pas se perdre. On dit souvent qu'Ulysse est l'homme du voyage, du trajet, du processus. Celui dont la route compte plus que le but. Une sorte de petit blanc, aventurier, un genre de touriste. Mais Ulysse, c'est d'abord l'homme qui veut rentrer chez lui. Alors, ok, il ne refuse pas d'expérimenter, de profiter de ce que peut lui offrir le voyage. Il veut voir, vivre, goûter tout ce qui peut s'offrir à lui, profiter de la vie, écouter le chant des sirènes. Mais en même temps, il ne mange pas de lotus, la plante qui fait tout oublier. Et il refuse l'immortalité offerte par Calypso, parce qu'il veut rester lui-même un individu, un mortel. Ulysse, c'est le mortel qui va traverser la tourmente avec en tête ces trois mots simples « rentrer chez moi ». Ulysse, c'est l'homme du retour à soi, celui qui se tient, comme on dit d'un bois qu'il se tient, dans le sens où il ne se dépiote pas sous les coups. Alors que les choses soient claires, Ulysse n'est pas l'homme droit, univoque, rigoureux, austère, tel qu'on se l'imagine. Bien au contraire, on est face au prince du mensonge, à l'as de la métamorphose, au roi du détour. Mais c'est par ces détours mêmes qu'Ulysse va droit au but, avec rigueur et austérité. Et il revient du monde de la nuit, des monstres, de l'inhumain et de la sauvagerie, pour retrouver sa femme et régner sur un caillou plein de chèvres. Voilà ce que j'appelle une vie réussie.
À l'écoute de Radio Campus 106,6 ou campuslille.com, émission spéciale consacrée à Deux fois née avec son auteur Constantin Alexandrakis. Alors, vous venez d'entendre un discours qu'évidemment vous ne retrouverez pas dans le livre, et c'est justement la richesse de ce discours.
Un inédit.
C'est exactement ça, c'est un inédit. Donc, et bien maintenant, on va parler un petit peu du livre.
Ouais.
Et puis il y a un petit peu plus de Grèce, de manière générale, parce qu'il s'agit de ne pas vous parler d'un bouquin que, évidemment, vous allez vous précipiter pour aller l'acheter. Voilà.
On vend partout.
Évidemment. Donc, non, ceci dit, facilement trouvable dans plusieurs librairies lilloises, type Meura, par exemple.
Parfaitement.
Sans faire de page de publicité, c'est au contraire de la... invité à découvrir, si vous ne les connaissez pas encore, cette petite librairie absolument merveilleuse.
Tout à fait.
Ouais. Et où, normalement, tu devrais bientôt, d'ailleurs, venir faire une présentation du bouquin.
Inch'Allah, j'en sais rien, je ne sais pas. J'ai pas eu de... Peut-être, ouais, pour l'instant, il n'y a pas de date qui est posée. Mais, ouais.
On tiendra informé dans les points sur les i,
ouais.
De la date pour aller t'écouter en direct à cette librairie. Alors, moi, je voulais revenir sur le titre « Deux fois né ». Deux fois né, déjà, tu peux nous dire d'où ça vient, ce mot
C'est un épithète de Dionysos, c'est-à-dire Dionysos, il est Diogonos, donc il est né deux fois, parce que une première fois, il sort de sa mère qui a pris feu, parce qu'elle a vu Zeus, son père, en premier, en vrai, donc elle brûle, et Zeus sauve son enfant et se le coud dans la cuisse. Et il renaît après en sortant de la cuisse de donc là qui c'est pas Jupiter, c'est Zeus, mais c'est un dieu qui meurt et qui renaît Dionysos. C'est assez bizarre pour un immortel. Mm-hmm. Bon, c'est un épithète de Dionysos, c'est ça,
et qui se retrouve d'ailleurs je crois découpé en morceaux par les géants,
les titans,
ouais. Pardon, les titans, ouais.
Ouais.
Et dispersé aux quatre coins. Enfin, ça,
c'est... Il se fait marave assez régulièrement. Il a une enfance de merde, quoi.
C'est ça,
le
ouais.
pauvre Dionysos. Et il en prend un peu plein la gueule, ouais.
Il est tout le temps en train de recoller les morceaux, en fait. Hein.
Ouais, c'est le dieu de l'unification. C'est sa promesse. Ce qu'il nous promet, c'est de retrouver l'unité avec la nature, l'unité perdue dans ses fêtes. Dans son délire, dans la folie qui peut, dans laquelle il peut nous emmener, avec le vin et la transe, on retrouve une unité perdue avec la nature. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'unité perdue ? Enfin, c'est-à-dire que c'est des... L'histoire, en tout cas, elle raconte très clairement des femmes qui dansent dans la forêt avec les biches, qui donnent le sein à des petits sangliers, je ne sais pas, où, et qui... Et qui font qu'un avec la nature, quoi, pendant le temps des fêtes. Et ce qui est assez compliqué, c'est que si on interrompt ces fêtes en disant mais qu'est-ce que c'est que ces partous, ou je sais, enfin qu'on a un regard un peu conservateur là-dessus et qu'on vient les emmerder, elles vous mettent en morceaux, quoi. C'est extrêmement violent, la réponse, si on refuse Dionysos.
Elles font de vous un Dionysos, du coup,
potentiellement. Elles font de vous un autre extrême, quoi. Ouais. Si on n'accepte pas l'autre, on va être transformé en... Le plus extrême de l'autre, c'est-à-dire le monstre, quoi. L'innommable, l'horreur absolue. C'est ce que Vernon raconte, hein. C'est pas des trucs que j'ai inventés tout seul, mais donc je reprends un peu ce que nous raconte Jean-Pierre.
Ça me fait penser d'ailleurs à une phrase de Lévi-Strauss dans Race et Histoire, dans lequel il dit le barbare, c'est celui qui croit à la barbarie de l'autre, justement.
Voilà, ouais, c'est ça.
Qui la projette toujours sur la tronche de l'autre.
On la projette et ça nous revient dessus en trois fois pire.
Boomerang. Boomerang.
Et voilà. Et donc, ce qu'il s'agit d'accepter de... Enfin bon, je sais pas si on peut dérouler là-dessus.
Déroulons. Vas-y.
Non, mais pareil, Dionysos, il est un peu féminin. C'est un étranger de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on dit que c'est un dieu qui vient de... Qui vient de loin, hein, qui vient de l'Orient, alors qu'il est parfaitement grec. C'est le fils de Zeus. Il est né à Thèbes, donc il ne peut pas faire plus grec. Mais on en fait l'étranger, quoi. C'est un étranger qui est pourtant à l'intérieur, quoi. Et voilà. Et il vient tout le temps. Il veut être choisi. Et quand on le refuse, quand il fait des parousies, quoi, il réapparaît comme ça. C'est un dieu d'apparition. Et quand il apparaît, si on ne le reconnaît pas et qu'on le célèbre pas à sa juste valeur, ou qu'on le rejette brutalement, parce qu'il est efféminé, parce qu'il est étranger, parce qu'il est bizarre, qu'il est dans les rues à 5h du matin avec toute une espèce de bande de travelots pas possible en train de faire de la musique, et qu'on dit « Ah, ceux-là, il faut les mettre en prison », et bah, en gros, il va faire exploser la prison, détruire la ville, rendre les femmes folles qui vont égorger leurs enfants. Et ça va être sanglant. Donc, voilà.
Ne faites pas chier.
Faut pas.
Ne faites pas chier. les bandes de voilà. Musiciens travelots à 5h du matin, ça pourrait vous coûter très, très cher.
C'est ça.
Et pas seulement dans ce monde-ci, même dans l'au-delà.
C'est ça.
Dionysos ne règne pas que sur le. Que, en tout cas, n'est pas qu'un être de cosmos, c'est aussi un être du chaos. Ça, c'est un des aspects très forts de Dionysos qui finalement est à la jonction, quoi, entre ces deux mondes qui sont indissociables, quoi, le cosmos et le chaos. Enfin, c'est un peu que moi, c'est ma lecture, hein,
ouais.
Qui s'appuie pas particulièrement sur un Vernon ou qui que ce soit. Ouais,
tu peux, après moi, ouais, pas de problème.
Je me fais ma petite sauce. Je me fais ma petite sauce. Et alors, il y a donc la mythologie grecque, on l'a déjà entendu dans ton discours, avec Ulysse, avec Achille. On retrouvera, et notamment, on retrouvera en fait tout au long du bouquin Kéros et surtout Métis.
Ouais.
Qui reviennent vraiment alors tout au long du livre, hein, qui sont comme un fil conducteur qu'on retrouve même, j'y reviendrai, même en couverture quelque part, de manière allégorique.
Ouais. Métis, c'est pas l'inverse ni l'opposé de Dionysos, ça n'a rien à voir, quoi. C'est un tout autre monde. C'est le monde plutôt de la stratégie, du calcul froid, de la guerre stratégique. C'est Athéna, Métis. Et donc, c'est surtout pas le délire et la manie, quoi. Ou la transe, c'est plutôt le calcul, la stratégie, le mensonge aussi.
La ruse
surtout, voilà. C'est surtout la ruse, quoi. Mais la ruse vraiment en conscience, quoi. Et c'est après tout une sorte de mentalité qu'on retrouve dans toute la Grèce antique, qui est valorisée dans la Grèce antique, notamment avec des personnages comme Ulysse, comme Athéna.
Alors le point commun Athéna et Dionysos, c'est que tous les deux sortent du corps de Zeus.
Eh oui.
Athéna de la tête, c'est Dionysos de la cuisse. Hein,
c'est le vieux truc de la frustration des hommes qui peuvent pas accoucher, je pense, ou je sais pas quoi. Enfin, je sais pas pourquoi les Grecs ils ont un truc comme ça. Ils veulent.
Ils transfèrent sur les dieux, quoi.
Voilà, ouais. Zeus, il peut tout. Il peut même accoucher, donc voilà. C'est. Mais effectivement, ils ont ce point commun, mais c'est à peu près tout. Hein. Très franchement, c'est à peu près le seul point commun qu'ils peuvent avoir, parce que, il y a des histoires de métamorphose, parce que la métamorphose, cette capacité à se transformer, à s'adapter,
qualité de métis par excellence d'ailleurs,
tout à fait. Ouais. Oui, c'est ça, c'est une océanide polymorphe, c'est-à-dire qu'elle est capable de se transformer en tout type d'objets, de la goutte d'eau à l'arbre, en passant par le tigre, elle fait ce qu'elle veut avec son corps. Et elle a c'est une capacité d'adaptation au réel. Ça travaille sur commande, métis. C'est collé au réel.
Pragmatique.
Il y a un pragmatisme, et tout à fait, ouais.
Pragmatique au sens grec, d'ailleurs, c'est le réel, la réalité, il me semble.
Ouais.
Ouais. Ou c'est l'homme réel, je crois. Ah non, on dit anthropos pragmaticos, ça peut-être. C'est l'homme réel, l'homme vrai, celui qui est ancré dans la réalité, en fait.
Je crois que c'est pragmatica, ça veut dire tout à fait.
Voilà. Donc, ouais, comme
je
ça,
crois.
C'est expéditif.
Tout à fait, en effet. Voilà.
Et Métis, avant d'être identifié à Athéna, moi j'apprenais ça en te lisant, justement, c'est qu'elle est d'abord en fait la première femme de Zeus. En tout cas une épouse de Zeus.
C'est la première épouse, ouais, c'est
la
sa première.
Première hein. Et qui sera, alors que Zeus, justement, veut. Il y a un oracle, plus ou moins, qui dit que l'enfant de Métis et de Zeus détrônera Zeus. Et du coup, Zeus, pour parer à cela, décide de.
D'avaler Métis.
D'avaler Métis, quoi.
Et en fait, il est en pleine conquête du pouvoir, hein, Zeus. Et il a besoin, il a la force avec lui, la force de Sambrin. Il est encore en train d'essayer de détrôner son père. Et il lui manque l'intelligence rusée pour régner. Et en avalant Métis, il va invisibiliser les femmes et en même temps devenir le dieu. C'est-à-dire que pas une ruse ne se tramera dans l'univers sans passer d'abord par son esprit, puisqu'il aura Métis à l'intérieur de lui. Voilà.
Sacré allié intérieur, là, en l'occurrence.
Ben voilà, l'intelligence rusée, la puissance de calcul, je ne sais pas comment dire. Ouais.
Et alors, dans le bouquin, d'abord, tu identifies ta mère à Métis, puis toi-même.
Ouais.
Je vais reprendre une citation que tu fais dans le bouquin de Vernon et d'Étienne à propos du poulpe. Le poulpe, donc maître des liens, rien ne peut l'enserrer, il peut tout saisir. Il tresse et il tord. Voilà ses maîtres mots. Son monde est multiple, divisé, ondoyant. Il n'a pas d'autre sens que celui imposé par le réel. Il travaille sur commande, prêt à saisir l'occasion, à lier, à surprendre, à empoigner brusquement l'opportunité. Ses adversaires ne prêtent que peu d'attention à sa présence. Ils ne voient pas le piège, la chose trappe qu'il leur réserve. Au lieu d'être le jouet du mouvement, il en est le maître insaisissable. Réseau vivant d'entrelacs, comme les spires, les replis du serpent ou comme les dédales du labyrinthe de Dédale. Et alors, en lisant cet extrait, je me demandais si ce livre, c'est ta manière à toi de te faire poulpe, de reprendre prise sur un mouvement dont tu as le sentiment d'avoir été longtemps le jouet.
Ben oui, en tout cas, ce livre, ça m'a permis de m'expliquer cette espèce de mentalité qui est effectivement liée au mouvement et à une adaptation au réel. Moi, je me sens pas non plus expert en métis. J'ai pas l'impression d'être très très bon en ruse, en vrai. Ça nous traverse tous. C'est des choses très générales, très poreuses, très très difficiles à saisir. Tous ces trucs-là, ça s'échappe tout le temps, quoi. C'est typiquement les métamorphoses, c'est océanique, quoi. C'est liquide. Donc pour les attraper, c'est pas facile. Et dans ce livre, effectivement, je voyage là-dedans. Par moments, je m'explique ces choses-là. Est-ce que moi je le deviens ? Est-ce que c'est en partie non ? C'est des choses. J'ai du mal à trancher là-dessus. Moi, je reste très dubitatif. J'en sais rien. C'est un peu ma réponse à beaucoup de choses, ce qui n'est pas vraiment une réponse. Mais en tout cas, c'est une exploration de cette psychologie, on va dire. C'est pas vraiment ça, mais c'est de cette mentalité qui est métisse, qui est la ruse, la fourberie, le piège, tout ça.
Alors là, ce que tu viens de dire, justement, ça m'évoque ce que tu disais dans le discours à propos du match de boxe de Mickey Ward contre
Arthur Rogatti. Oui, voilà. Contre Hammer, ouais.
Hammer, ouais. Ouais. Où tu disais qu'on assiste sur le ring à un type un peu plus âgé, qui n'a pas la vraie niaque, et face à un mec qui est en train de danser autour de lui et finalement qui remportera le match. Et ça m'évoquait cette danse, ce sautillement autour de l'adversaire un peu plus pâteau, une forme de métisse aussi, mais là sur donc, le ring.
Parce que là, c'est une technique. Métisse, c'est une technique, quoi. C'est vraiment la pensée technique. Du coup, il y a une partie qu'on peut retrouver dans la fabrication d'une certaine forme de corps, comme un boxeur. C'est-à-dire qu'il va former son corps à une certaine technique. Donc là-dedans, il y a de la métisse. Et là où il y a de la métisse dans l'histoire d'Arthur Rogatti, de Mickey Ward, c'est qu'il ne part pas dans le délire. C'est pas la vengeance de la folie meurtrière, c'est je te détruis tout à fait
dans les règles.
Dans les règles déjà, et en même temps de manière très froide et très calculée.
Ce qui est aussi permis par le ring, en fait.
Tout à fait, c'est un débat.
Il y a un cadre.
Effectivement, dans le livre après, il le rencontre dans la rue, il lui dit je devrais t'éclater la tête, et il le fait pas parce qu'il veut pas aller en tôle. Voilà. Donc il est pas con, il va pas se niquer encore plus, quoi. Donc il quelque part, c'est assez standard comme affaire, mais voilà.
Mais c'est assez grec. il résiste à l'hubris.
Tout à fait, sorte, même ouais, à l'hubris, il y a une certaine folie, ouais.
La démesure de l'hubris. Ouais. Un petit point parce qu'on l'a évoqué juste, Kéros étant un ange nu qui court dans tous les sens.
C'est pas un ange.
C'est pas un ange, pardon.
Il y a pas d'ange.
Non,
mécréant.
C'est vrai, dans la bouche d'un grec, là, je suis un mécréant. Ouais, il y a pas photo.
Non, je déconne. C'est le fils, c'est un des fils de Dieu. C'est le plus jeune, je crois.
Ouais.
C'est encore. C'est le plus jeune qui a. Voilà, il a une natte, une longue natte qui lui dépasse du crâne et il court partout.
Il a le corps huilé, il est nu, du coup insaisissable, sauf...
Ah, huilé, je savais pas. Ouais, tout à fait, ça marche en tout cas.
Sauf par la natte.
Sauf qu'on peut l'attraper par la natte. Et quand il passe, on a trois choix. Soit on le voit pas, soit on le voit et on fait rien, et soit on le voit et on l'attrape. C'est Kéros, c'est l'occasion. Ouais. C'est le temps de l'opportunité.
Le décisif.
Voilà, de l'instant décisif. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est assez marrant, parce que Kéros, ça veut dire la météo en grec aussi.
Oui, c'est le temps qu'il fait, quoi.
Ouais, le temps qu'il fait. Et qui change tout le temps, et qui est tout le temps en mouvement.
Bah, en stratégie, et notamment à la guerre, c'est fondamental de savoir saisir les opportunités offertes par le temps qu'il fait, d'ailleurs.
Ouais. Et l'instant décisif, savoir être disponible pour attraper pour être maître de l'instant décisif, c'est ça. C'est se rendre maître de l'opportunité. Donc, à la fois la voir comme elle apparaît et à la fois savoir la faire apparaître.
Métis, là, dans la relation avec Kéros, ça pourrait presque être sa nounou. C'est la seule qui arrive à le choper à tous les coups, quoi.
T'as le droit de faire ce que tu veux, c'est le polythéisme. Donc.
Ouais, bah, je vais créer une nouvelle théogonie, écoute. Et oui, et puis bah, qui renvoie d'ailleurs Métis et le poulpe, sous la forme du poulpe en tout cas, beaucoup à la couverture du livre, qui est un de tes dessins,
ouais.
Et qui pourrait être lu comme une allégorie de la Métis, ou en tout cas d'un certain nombre de thèmes qui sont développés tout au long du livre.
Mmh. Oui, alors, mais sauf que alors, c'est vraiment étrange, parce que c'est des dessins que j'ai commencé à faire bien avant d'avoir fait ce livre, et qui sont à un moment tout clique, tout se met en place, c'est un genre de Tetris, et ah bah oui tiens, en fait ces dessins sont effectivement quasiment basés sur la même structure que Métis, parce que au niveau géométrique, Métis c'est une combinaison de l'un et du multiple, donc c'est le cercle et la ligne à la fois, donc une spirale par exemple c'est à la fois un cercle et une ligne. Et les dessins sont fabriqués avec un stylo bic qui tourne. Enfin, le mouvement de la bille fait qu'on enroule le trait qu'on fait. Et
on le déroule, là, du coup.
Ou on l'enroule ou on le déroule. Ouais. Il s'enroule sur lui-même en avançant.
Ouais.
Ce qui est, on rentre dans des trucs un peu compliqués.
Il y a d'ailleurs des petites illustrations de ça tout au long du livre, en visuel, je veux dire.
Pas oui, il y a toute une explication à travers des hallucinations que j'ai eues sous peyote. Et donc, où je vois des choses qui c'est du même et dans la répétition. C'est du différent dans la répétition. Qu'est-ce que j'ai plus, ben voilà, c'est un labyrinthe un peu, hein, le bouquin. Donc on peut s'y promener.
T'aurais pu t'identifier éventuellement à Dédale aussi.
Oui, bah tout à fait, mais Dédale c'est une figure
de la métisse
complètement, c'est de l'artisan, c'est le rusé, l'espèce de MacGyver antique qui est capable de faire de tout il fait feu de tout bois. Il se démerde toujours pour sortir de situation. C'est celui qui est capable de fabriquer le labyrinthe et celui qui est capable d'en sortir. C'est-à-dire qu'il est capable de se mettre dans les pires situations et de trouver une solution à sa propre connerie, quoi.
Et non seulement de réussir à se venger de celui qu'il avait fait enfermer dans ce labyrinthe,
en plus,
à savoir Minos, voilà, qui se finira ébouillanté dans un les bains construits par Dédale, justement.
C'est ça, oui, tout à fait. Parce qu'il, c'est-à-dire qu'il s'aperçoit que Dédale fabrique un costume pour Pasiphae, sa femme, la femme de Minos, pour qu'elle se déguise en vache parce qu'elle est amoureuse d'un taureau. Et donc, elle va se faire prendre par le taureau qui sera subjugué par ce super costume très ressemblant. Et elle va tomber enceinte du Minotaure. Et Minos, pendant un moment, il va penser que c'est un miracle, que c'est une espèce de magie ou quelque chose comme ça. Et puis, petit à petit, il va comprendre que c'est Dédale qui a construit le costume. Et là, il va lui dire, attends...
Tu t'es foutu de ma gueule.
Foutu de ma gueule, mon Dédale. Donc, je vais t'étriper. Et il va essayer. Et après, il va le poursuivre, essayer de l'enfermer dans le labyrinthe, le poursuivre à travers les archipels. Enfin, bon, c'est toute une aventure.
Et finira dans la marmite de Dédale.
Parce que Dédale est un très bon plombier.
Voilà. Il a mal élevé son fils, Dédale, quand même, hein.
Oui, Icare. c'est-à-dire que son fils est con. Enfin, il a pas la métis.
Il a l'hubris, lui, plutôt.
Il a plutôt l'hubris. Il a pas le sens de la mesure. Il va aller. Dédale lui dit, faut avec les ailes là qu'on s'est fait pour s'enfuir, faut voler ni trop haut ni trop bas, faut voler juste. Et bah lui, il va voler trop haut et tomber.
Il va vouloir s'approcher du soleil.
Et bizarrement, c'est vrai que la légende, on retient beaucoup Icare, alors que c'est quand même beaucoup moins intéressant que Dédale.
C'est clair. Mais du coup, c'est bien, ça nous fait une transition toute faite juste sur les sons et la linguistique pour passer à Icaria, une île où tu as passé pas mal de temps.
Ouais.
Et un lien avec Icare, d'ailleurs, je pense que tu t'en parles. Hein,
c'est là qu'il tombe, en fait.
C'est là qu'il serait tombé.
Ouais,
c'est ça. Et justement, par rapport à Icaria, tu évoques une espèce de tradition assez ancienne, finalement, de gestion collective des biens communs.
Ouais.
Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots de ça à Icaria?
En fait, c'est relativement simple. Ça vaut pour beaucoup d'endroits de Grèce aussi. C'est-à-dire que c'est des endroits qui ont été ignorés par les pouvoirs en place, que ce soit l'Empire ottoman ou les grandes puissances qui dominaient le territoire. C'est des trous, quoi, des shitholes.
Un caillou avec des chèvres.
Voilà, qui sont en gros qui ont servi de prison, qui ont été des endroits où les gens étaient laissés complètement à eux-mêmes. Et où se sont développées des formes de solidarité nécessaires, puisqu'ils étaient un peu quand même dans la merde, quoi. Et du coup, typiquement, Icaria, ce qui se passe pas partout en Grèce, mais ils font les fêtes qu'ils font l'été, dont on a parlé tout à l'heure, elles sont le but de ces fêtes, c'est de faire tourner de l'argent. Pour qui construire une route, qui faire des réparations dans l'école. Voilà. Et donc, chaque village, à son tour, pendant tout l'été, va organiser une fête. Et l'idée, c'était, et c'est encore un peu aujourd'hui, même si c'est un peu plus compliqué aujourd'hui.
Notamment du fait de l'Union européenne, me semble-t-il.
Parce qu'il y a, parce qu'il y a beaucoup de subventions et que du coup, il y a une partie où pareil, typiquement, les gens qui vivaient du commerce de leurs chèvres aujourd'hui reçoivent plus de subventions.
Ce qu'ils gagneraient
en vendant du fromage de chèvre, donc ouais. ils grugent et puis ça devient un peu compliqué de continuer. Mais bon, les fêtes, en tout cas, elles continuent et c'est énorme. Il y a plein de monde qui va. Et ça reste quand même un peu l'idée de quand tu vas à cette fête-là, tu participes à la vie du village dans le sens où quand tu t'achètes à bouffer, c'est de l'argent qui va servir. Parce que l'État donne rien, il n'y a rien en Grèce. On ne compte pas sur l'État pour faire des routes. Quoi. Du coup, on est obligé de se démerder entre nous. Et là-dedans, quelque part, il y a une réponse il y a quelque chose qui me semble intéressant. Pour répondre à une espèce d'hégémonie de l'État, ou je ne sais pas comment dire, de super centralisation. De
tout déléguer. Tout à fait, à des structures centralisées, bureaucratiques.
Tout à fait, ouais. Mais il faut juste bien se rendre compte que ces choses-là, elles existent à Icaria, et en Grèce, ou même c'est par la force des choses, quoi, je ne sais pas comment dire. Ils ne se sont pas dit, on va être communistes.
Oui, mais ils l'ont fait. D'ailleurs, à ce sujet-là, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué en Grèce, en lisant à la fois, en rencontrant les gens, en discutant avec eux, et puis en lisant des bouquins plus sur l'histoire. C'est que finalement, en ayant été occupé pendant près de 1000 ans successivement, un coup, c'était les Arabes, un autre coup, c'était les Byzantins, le coup d'après, c'était les Ottomans. On a eu les Vénitiens, on a eu les Génois, enfin bref, ça a été...
C'est surtout l'Italie et l'Empire ottoman qui a duré 500 ans quand même. Donc,
ouais, c'est quand même pas de la blague. Et du coup, il y a toujours, en fait, ce sentiment, moi, que j'ai eu, en tout cas, c'est qu'il y a de manière générale, c'est développé dans le peuple grec, pour le dire un peu largement, une défiance, une méfiance vis-à-vis du pouvoir de manière générale, conçu comme un étranger, en fait.
C'est ce qui explique en fait le rapport à l'impôt aussi. C'est des choses qui ont déjà été dites beaucoup, mais c'est-à-dire que payer des impôts, tu le payes une fois, deux fois, trois fois, et puis t'as toujours pas de route, t'as toujours pas d'école, et à un moment tu payes plus. Tu t'arrêtes, tu gardes tes sous, et puis tu les mets ailleurs, ou alors tu t'arranges avec le mec qui construit des routes pour le faire comme ça, mais tu le donnes pas à l'État parce que ça disparaît. Donc. C'est aussi simple que ça.
Sentiment que j'ai, ce sentiment que ce sont, de toute façon, l'État est étranger, quoi. Quoi qu'il en soit, c'est un étranger, c'est une puissance occupante, même si c'est l'État grec, en fait.
Même si c'est l'État grec, puisque le roi qui a été au pouvoir pendant quelques années a été imposé depuis l'extérieur. On est encore dans les situations qui sont exactement les mêmes depuis même 100 ans en Grèce. Les décisions ne sont pas prises par les Grecs.
Et pour revenir à Icaria, ça, d'ailleurs, tu l'as évoqué en disant que ça a été une prison. En fait, c'était un lieu où étaient déportés suite à la guerre civile et puis pendant la dictature, notamment les communistes et celles et ceux dont le pouvoir voulait se débarrasser. Et il y a une assez belle phrase que tu cites d'un communiste de retour à Athènes qui dit « Le plus à droite des Icariotes est le meilleur communiste des Athéniens » ou quelque chose comme
ça. C'est quoi le plus à droite des Icariotes est plus communiste que le plus communiste des Athéniens.
Voilà, c'est ça.
Parce qu'effectivement, en tout cas, il y a plein de légendes comme ça qui disent que les exils avec Caria, les gens, les exilés avec Caria, les gens qui étaient en prison, qui sont donc exilés, quoi, étaient accueillis. C'est-à-dire que ils avaient les Icariotes avaient 3 œufs, et bah ils donnaient 2 œufs à l'exilé, et puis ils en gardaient un pour eux, quoi.
Assez, ouais. Assez
et je pense vrai. Que c'est assez vrai. Enfin, c'est vrai, c'est sûr. Il y a des choses comme ça. Là-bas, on le sent. Il y a des gens comme ça, quoi. Il n'y a pas que ça, mais il y a des gens comme ça.
Le peu qu'on a, on le partage, quoi.
Ouais. Puis ouais. Ouais.
Pour situer un peu géographiquement, Icaria, c'est au nord, hein, des îles Ioniennes, des Cyclades, pardon.
C'est ouais à l'est, c'est vraiment en face de la Turquie.
Ouais.
Nord, ouais c'est au-dessus de Samos, à côté de Samos, en dessous de Lesbos. Donc
ouais,
c'est l'est.
D'accord. Ouais. En dessous ouais. De quand même au sud de Lesbos. Ouais.
Ouais au sud de Lesbos. D'accord. C'est pas au nord-nord. Hein. Le nord-nord c'est autre chose. Ouais.
Ouais. Et tu évoques également, dans, on va rester comme ça sur cette idée un peu de bien commun. Tu évoques notamment le dispensaire autogéré de Thessalonique, où tu es allé plusieurs fois, où tu sembles bien, assez bien connaître certaines personnes qui en font partie. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Et moi, j'avoue que tu as mis 2 extraits d'une interview que tu avais dû mener, il me semble, ouais. Pour la revue Z, c'est ça?
C'est ça, ouais.
Ouais. On pourra peut-être dire quelques mots après. Ouais. Mais est-ce que d'abord, tu peux nous parler de ce dispensaire
qui
a marqué, quoi, en fait.
C'est une des choses qui donne de l'espoir en Grèce. C'est un collectif de médecins qui, au début, s'est formé en soutenant des grèves de la faim de migrants pour devenir maintenant un collectif. Au début, c'était 5. Maintenant, ils sont 200 dans la ville de Thessalonique. Ils fonctionnent en assemblée au consensus, c'est-à-dire qu'ils attendent que tout le monde soit d'accord pour prendre une décision, ce qui doit être infernal. Ils fonctionnent en assemblée au consensus. En gérant un dispensaire qui est donc un endroit où il y a de la médecine générale, de la psychologie, psychiatrie, du dentiste, gynéco, plus un réseau dans la ville, disons, de médecins qui prennent des gens gratuitement, quelle que soit leur nationalité, évidemment. Au début, c'était pour donner un coup de main aux migrants, aux réfugiés. Donc ça, c'était bien avant les histoires de la guerre de Syrie et tout ça. Et puis, petit à petit, avec la crise, c'est devenu aussi pour les Grecs. Voilà, et ça fonctionne. Ce qui est très étonnant et qui est très fort, c'est qu'il fonctionne que avec des dons. Il n'y a évidemment aucun argent de l'État, non plus de fondations privées. Ou, en tout cas, c'est que des gens qui donnent en leur nom. Donc il n'y a pas de, logo Coca-Cola ou quoi sur leur truc. Et ils sont devenus indéboulonnables. Ils sont extrêmement puissants, enfin puissants dans le sens où on peut pas les détruire, quoi. Là, ils sont en place et ils doivent rien à personne. Et du coup, le truc fonctionne. Il y en a à Thessalonique, mais il y en a un peu partout en Grèce.
Lors de mes périples en Grèce, j'en avais rencontré plusieurs d'ailleurs à Athènes, à Héraclion.
Voilà.
Notamment.
Après, c'est pas les mêmes, politiques, ils ont pas les mêmes points de vue, c'est pas le même truc à chaque fois. C'est comme l'Église orthodoxe peut-être. C'est décentralisé, j'en sais rien.
Ouais, non. Notamment le rapport à l'État est très différent d'un dispensaire à l'autre.
En tout cas, ils sont d'une radicalité. Franchement, c'est on connaît pas ça ici, quoi. Tout en étant des docteurs, quoi. C'est des gens qui sont urgentistes, dentistes, tout ça. Et en même temps, ils posent des choses très, très claires. Et ils ont construit une indépendance qui est, en tout cas, aux dernières nouvelles que j'avais, indestructible. C'est-à-dire qu'ils continuent à avoir énormément de dons. Ils fonctionnent, ils roulent. Et ils n'ont pas besoin de... Ils attendent rien de Syriza, ils attendent rien de personne. Rien de l'Union européenne.
Ils refusent les dons, notamment des gros labos pharmaceutiques. Voilà. Ils refusent tous les dons de ceux qui collaborent à la casse du système de santé par ailleurs, en fait.
Voilà, et en attendant, ils continuent à bosser, quoi. Ils continuent à faire leur truc, à s'occuper des gens.
Et même à étendre les activités, hein, parce que je voyais que certains, notamment le bouquin d'ailleurs que je t'avais prêté sur les dispensaires autogérés grecs, où dans certains dispensaires, pour justement prévenir en termes de santé, pas seulement poser des pansements, j'ai envie de dire, ils organisaient également des distributs de bouffe, de vêtements, etc., en amont pour faire de la prévention concrète, quoi. Enfin,
il y a plein. Hein, c'est des. Disons que ça fait partie de ce qu'on appelle les initiatives. qui est un petit peu le seul endroit, le seul espoir qui reste en Grèce là.
C'est... Bon allez, on va, il va être temps de se dire au revoir. Il okay. nous reste une petite minute et puis on va passer l'antenne à Marcel et la compagnie pour une très bonne émission, j'en suis sûr, comme toujours. Simplement, une dernière petite question. Du coup, retourner en Grèce maintenant, c'est différent après ce bouquin ?
Oui, j'y retourne pas beaucoup pour l'instant. Il va falloir que j'y retourne bientôt. Ouais. Mais là, pour l'instant, j'ai pas vraiment eu le temps. Et voilà. Oui, c'est différent.
Ouais, j'imagine. Ouais.
Donc vaste question.
Bon. Ouais. Eh bien, de toute façon, restez à l'écoute de Radio Campus et on tiendra Merci. Informé ouais. pour ta prestation chez Meura.
Merci beaucoup.
Voilà.
Au revoir.
Au revoir.